Si on peut dire quelque chose en faveur du mitard, c'est qu'on a le temps de penser. Andy a eu 20 jours pour réfléchir, au pain et à l'eau. Et en sortant, il a sollicité une deuxième entrevue avec le directeur. Demande refusée. Un tel entretien, lui a fait savoir le directeur, serait contre-productif. C'est encore une des expressions qu'il faut connaître pour travailler dans l'administration pénitentiaire. Andy, patiemment, a renouvelé sa demande. L'a renouvelée encore, et encore. Il avait changé. Andy Dufresne avait changé. D'un seul coup, alors que le printemps 1963 fleurissait autour de nous, il y avait des rides sur son visage et des traces de gris dans ses cheveux. Il avait perdu ce léger reste de sourire qui flottait toujours au coin de ses lèvres. Ses yeux se perdaient plus souvent dans le vide. Et on apprend à savoir ce que cela signifie. L'homme qui a ce regard compte les années qu'il a purgées, les mois, les semaines, les jours. Il a renouvelé sa demande, encore et encore. Il était patient. Il n'avait rien d'autre que du temps. L'été est venu. À Washington, le président Kennedy a promis un nouvel assaut contre la pauvreté et les inégalités, sans savoir qu'il lui restait 6 mois à vivre. À Liverpool, un groupe qu'on appelait les Beatles devenait une force avec laquelle la musique anglaise devait compter. Mais je crois que personne n'en avait encore entendu parler aux États-Unis. Les Boston Red Sox, 4 ans avant ce que les gens de Nouvelle-Angleterre appellent le miracle de 67, languissaient au 3e dessous de la Ligue de baseball. Tout cela se passait dans un monde plus vaste, où les gens étaient libres. Norton l'a reçu vers la fin du mois de juin. Et c'est Andy lui-même qui me l'a raconté 7 ans plus tard.
« Si c'est pour les pots de vin, vous n'avez pas à vous inquiéter », a dit Andy à voix basse. « Croyez-vous que je parlerais de ça? Ce serait creuser ma tombe. Je serais tout aussi coupable que... »«
Ça suffit », a coupé Norton, le visage long et froid comme une dalle de granit. Il s'est renversé dans son fauteuil jusqu'à ce que son crâne manque de toucher la devise encadrée « Le jugement est proche ».
Mais...
« Ne me parlez plus jamais d'argent, » a dit Norton, « ni dans ce bureau, ni ailleurs. À moins que vous ne vouliez voir la bibliothèque redevenir un placard à peinture. Vous m'avez compris ?»«
J'essayais seulement de vous rassurer, c'est tout. »«
Allons donc. Quand j'aurai besoin d'un pauvre type comme vous pour me rassurer, je prendrai ma retraite. J'ai accepté cet entretien parce que vous m'avez suffisamment importuné, Dufresne. » Je veux que cela cesse. Si vous voulez vous payer ce château en Espagne, c'est votre affaire. N'en faites pas la mienne. J'écouterai des histoires aussi démentes que la vôtre toute la semaine, si je me laissais faire. Le moindre pêcheur de cette maison viendrait pleurer dans mon giron. J'avais du respect pour vous. Mais c'est fini. Fini. Nous nous comprenons.
Oui, mais je vais engager un avocat, vous savez.
Seigneur, mais pourquoi ?
« Je crois que ça tiendra le coup, » a dit Andy. « Avec Tommy Williams, mon témoignage, la confirmation des archives et des employés du club, je crois que ça tiendra le coup. »«
Tommy Williams n'est plus détenu dans cette institution. »«
Quoi ?»«
Il a été transféré. »«
Transféré où ?»«
À Cashman. » Sur quoi Andy n'a plus rien dit. Il n'était pas bête, et il aurait fallu une remarquable stupidité pour ne pas sentir la combine. Cashman était une prison à sécurité minimum, très loin au nord, dans le comté d'Aroostook. Les détenus ramassent des masses de patates, ils travaillent dur, mais on leur donne un salaire décent et ils peuvent assister s'ils le veulent au cours de la CVI, une école technique tout à fait convenable. Mieux encore, pour un type comme Tommy, qui a une jeune femme et un gosse, Cashman offre des permissions. Autrement dit, la chance de mener une vie normale, tout au moins pendant le week-end. De construire un modèle réduit avec son gosse, de faire l'amour avec sa femme, peut-être d'aller pique-niquer. Norton avait sûrement balancé tout ça sous le nez du gosse, avec une seule ficelle. Plus un mot au sujet d'Elwood Blatch, ni maintenant, ni jamais. Ou vous vous retrouverez à casser des cailloux à Thomaston sur la route numéro 1 avec les vrais durs, et au lieu de faire l'amour avec votre femme, ce sera avec un vieux pédé de maton.
Mais pourquoi ? A dit Andy. Pourquoi ?
Pour vous rendre service, a dit Norton, très calme.
J'ai vérifié à Rhode Island. Ils ont bien eu un détenu appelé Elwood Blatch. On lui a accordé ce qu'on appelle une CP, conditionnelle provisoire, encore une de ces lois libérales absurdes faites pour renvoyer les criminels dans les rues. Depuis, il a disparu.
« Le directeur, là-bas, » a dit Andy. « C'est un de vos amis ?»
Sam Norton lui a fait un sourire aussi froid qu'un hôtel en marbre. « Nous nous connaissons bien.
Pourquoi ?»
a répété Andy.
« Vous ne pouvez pas me dire pourquoi vous l'avez fait. Vous saviez que je n'allais pas me mettre à bavarder à propos de quoi que ce soit que vous ayez en train. Vous le saviez. Alors pourquoi ?»«
Parce que les gens comme vous me donnent la nausée, » lui a répondu Norton en choisissant ses mots. « Il me plaît que vous soyez là où vous êtes, monsieur Dufresne, et aussi longtemps que je serai le directeur de Shawshank, vous allez rester là. Voyez-vous, vous aviez coutume de penser que vous valiez mieux que tout le monde. Je sais très bien reconnaître cet air sur le visage d'un homme. Je l'ai repéré chez vous la première fois que je suis entré dans la bibliothèque. Vous auriez pu l'avoir écrit en majuscule sur votre front. » Désormais, cet air a disparu, et je trouve ça parfait. Ce n'est pas que vous soyez un instrument utile. Ne croyez surtout pas ça. C'est simplement que des hommes comme vous ont besoin d'apprendre l'humilité. En vérité, on vous voyait faire le tour de la cour comme si c'était un salon, et que vous étiez à une de ces cocktail parties où les damnés se promènent en convoitant les femmes et les maris des autres, et en s'enivrant comme des pourceaux. Mais vous ne marchez plus de cette façon. Et j'aurai l'œil sur vous au cas où vous recommenceriez. J'aurai l'œil sur vous pendant des années et avec grand plaisir. Maintenant, foutez-moi le camp.
Ok. Mais toutes les activités hors programme sont terminées, Norton. Les conseils en investissement, les embrouilles, les expertises fiscales, tout est fini. Demandez au bloc G et H de faire votre déclaration d'impôt.
Norton est devenu rouge brique, puis tout le sang s'est retiré de son visage. Pour ça, vous retournez à l'isolement. 30 jours, au pain et à l'eau. Encore une mauvaise note. Et pendant que vous y êtes, pensez à ça. Si quoi que ce soit s'arrête, la bibliothèque saute. Elle redeviendra ce qu'elle était avant votre arrivée ici. J'en ferai une affaire personnelle. Et je vous rendrai la vie très dur, très difficile. Vous aurez l'existence la plus pénible qui soit. Vous perdrez votre Hilton personnel de la division 5 pour commencer. Vous perdrez ces cailloux sur votre fenêtre et vous perdrez la protection que vous ont accordée les gardiens contre les sodomites. Vous perdrez tout. C'est clair.
Je pense que c'était assez clair.
Le temps continua à passer. C'est le plus vieux truc du monde, et peut-être le seul vraiment magique. Mais Andy Dufresne avait changé. Il s'était endurci. Je n'ai pas d'autre mot pour le dire. Il a continué à faire le sale boulot du directeur, et il s'est cramponné à la bibliothèque, de sorte qu'en apparence, les choses n'ont pas changé. Il buvait un verre à son anniversaire et au jour de l'an. Il distribuait toujours le reste des bouteilles. Je lui procurais de temps en temps de nouvelles toiles à polir, et en 1967, je lui apportais un nouveau casse-pierre. Celui que je lui avais donné 19 ans plus tôt étant, je vous l'ai déjà dit, usé jusqu'à l'os. 19 ans. Quand on le dit comme ça, brutalement, ces trois syllabes font un bruit de pierre tombale. Son marteau, qui avait coûté $10 à l'époque, en a coûté 22. En 1967. Ce qui nous a fait sourire, un petit sourire triste. Andy continuait à tailler et polir les cailloux qu'il trouvait dans la cour de promenade, mais elle avait rapetissé. On en avait asphalté la moitié en 1962. Pourtant, il en trouvait assez pour l'occuper, me semblait-il. Quand il avait terminé un objet, il le posait soigneusement sur l'appui de sa fenêtre, qui donnait vers l'est. Il me disait qu'il aimait les regarder au soleil, ces morceaux de planète trouvés dans la boue et taillés de ses mains. Des schistes, des quartz, des granites. De drôles de petites sculptures en mica fabriquées avec de la colle d'avion. divers sédiments agglomérés, polis et taillés de sorte qu'on voyait pourquoi Andy appelait ça des sandwichs millénaires, avec des couches de matières différentes accumulées au cours des siècles. De temps en temps, Andy faisait cadeau de ses sculptures pour se faire de la place. C'est à moi qu'il en a donné le plus, j'imagine. En comptant celles qui ressemblaient à des boutons de manchette, j'en avais 5. Une de ces sculptures en mica, dont je vous ai parlé, taillée pour ressembler à un lanceur de javelot, et 2 agglomérats dont on voyait chaque niveau en coupe, d'un poli parfait. Je les ai toujours. Je les examine de temps en temps, et je pense à ce dont un homme est capable, avec le temps et la volonté de s'en servir, goutte à goutte. Donc, apparemment, rien n'avait changé. Si Norton avait vraiment voulu briser Andy, comme il l'avait dit, il lui aurait fallu creuser plus profond pour voir les changements. Mais s'il avait vu à quel point Andy avait changé, je crois qu'il aurait été très content des 4 ans qui avaient suivi leur affrontement. Il voyait Andy faire le tour de la cour comme s'il était à une cocktail party. Je n'aurais pas employé ces mots-là, mais je vois ce qu'il voulait dire. Cela revient à la façon dont j'ai décrit Andy, portant sa liberté comme une cape invisible, n'ayant jamais vraiment acquis une mentalité de prisonnier. Ses yeux ne s'étaient pas éteints. Sa démarche n'était pas devenue celle des hommes qui rentrent à la fin de la journée, quand ils regagnent leur cellule pour une nuit interminable de plus, les épaules voûtées et les pieds traînants. Il se tenait droit et marchait toujours d'un pas léger, comme s'il rentrait chez lui où l'attendait un bon repas fait à la maison et une femme avenante, au lieu d'une bouillie fadasse de légumes détrempés, d'une purée grumeleuse et d'une ou 2 tranches de cette substance graisseuse et cartilagineuse que les tolards appelaient la viande mystère. Ça est une image de Raquel Welch sur le mur. Pendant ces 4 ans, s'il n'est jamais devenu exactement comme les autres, on le voyait effectivement silencieux, maussade, perdu dans ses pensées. Qui l'en aurait blâmé? Alors le directeur Norton a peut-être été satisfait. Du moins pour un temps. Son humeur noire l'a quitté vers l'époque du championnat de 1967. L'année de rêve, l'année où les Red Sox ont remporté le flambeau au lieu d'être 9e, comme l'avaient prédit les bookmakers de Las Vegas. Quand c'est arrivé, quand ils ont gagné le tournoi des Amériques, toute la prison en a été comme grisée. Il régnait une sorte de bonheur imbécile. Si les Dead Sox pouvaient revenir à la vie, alors peut-être n'importe qui pouvait y arriver. Aujourd'hui, je suis incapable d'expliquer cette impression. Pas plus qu'un ex-Beatlemaniaque ne pourrait expliquer sa folie, je suppose. Mais c'était réel. Toutes les radios de la tôle étaient branchées sur les matchs quand les Red Sox arpentaient le terrain. Une ombre est passée quand ils ont perdu 2 points à Cleveland, vers la fin, et une joie exubérante quand Rico Petrocelli a donné le coup décisif. Et puis la déprime quand Lomborg a été battu dans le second match de la série, empêchant le rêve de s'accomplir jusqu'au bout. Norton a probablement été follement ravi, ce fils de pute. Il aimait que sa prison porte le sac et la cendre. Mais Andy n'est pas retombé dans son marasme. Peut-être parce qu'il n'était pas vraiment un fan de baseball. Pourtant, il paraissait se laisser porter par la bonne humeur ambiante, et la sienne ne s'est pas dégonflée après le dernier match du championnat. Il avait sorti du placard son manteau invisible et l'avait de nouveau enfilé. Je me souviens d'un beau jour d'automne tout doré, fin octobre, 2 semaines après la fin du championnat. Ce devait être un dimanche, parce que la cour était pleine d'hommes qui secouaient la semaine de leurs souliers, lançant un frisbee par-ci, par-là, contournant un ballon de foot, marchandant ce qu'ils avaient à marchander. D'autres devaient être à la grande table de la salle des visites, sous l'œil attentif des matons, en train de bavarder avec leurs parents, de fumer, de raconter des mensonges pleins de sincérité, de recevoir leurs paquets cadeaux soigneusement fouillés. Andy était accroupi contre un mur comme un Indien, cognant 2 cailloux l'un contre l'autre, le visage levé vers le soleil. Un soleil étonnamment chaud pour une saison si tardive. « Salut Red, viens t'asseoir un peu. »« Ce que j'ai fait. »« Tu veux ça ?» Il m'a tendu un des 2 sandwichs millénaires dont je vous ai parlé, soigneusement poli. « Bien sûr que j'en veux. C'est très joli. Merci. » Il a haussé les épaules et changé de sujet.
Un anniversaire important pour toi l'année prochaine.
J'ai hoché la tête. L'an prochain, j'aurai tiré 30 ans. 60% de ma vie passée à la prison d'État de Shawshank.
Penses-tu que tu sortiras un jour?
Sûr. Quand j'aurai une grande barbe blanche et 3 dents pourries dans la mâchoire du haut.
Il a eu un léger sourire et a relevé son visage vers le soleil, les yeux fermés.
Fais du bien. Je crois que c'est toujours vrai quand on sait que ce maudit hiver vous arrive dessus.
Il a hoché la tête et nous n'avons rien dit pendant quelque temps.
Quand je sortirai d'ici, a-t-il fini par dire, j'irai là où il fait chaud tout le temps.
Il avait un ton si assuré qu'on aurait cru qu'il lui restait 1 mois ou 2 à tirer.
Tu sais où je vais aller, Red?
Non.
À Zihuatanejo,
a-t-il dit en faisant rouler le mot dans sa bouche comme de la musique.
Au Mexique. C'est à 100 000 au nord-ouest d'Acapulco, sur le Pacifique.
Tu sais ce que les Mexicains disent du Pacifique?
Je lui ai dit que non.
Ils disent qu'il n'a pas de mémoire. Et c'est là que je veux finir mes jours, Red. Dans un endroit chaud qui n'a pas de mémoire.
Il avait ramassé une poignée de cailloux tout en parlant. Et il s'est mis à les lancer un à un, les regardant rebondir et rouler sur le terrain de baseball qui serait bientôt sous 30 cm de neige.
Zihuatanejo. J'aurai un petit hôtel dans le coin. 6 cabanas sur la plage. Et 6 un peu en arrière, pour la clientèle de la grande route. J'aurai un gars pour emmener mes clients pêcher en mer. Il y aura une coupe pour celui qui attrape le plus gros merlin de la saison. Et je mettrai sa photo dans l'entrée. Ce serait pas du genre familial. Ce sera un endroit pour voyage de noces, de première ou de seconde main.
Et où vas-tu trouver le fric pour acheter cet endroit fabuleux? Dans ton portefeuille d'actions?
Il m'a regardé en souriant.
Ce n'est pas tombé loin, a-t-il dit.
Parfois, Red, tu me surprends.
De quoi parles-tu?
En fait, il n'y a que 2 types d'hommes au monde en face des vrais emmerdements.
Andy a craqué une allumette entre ses mains et allumé une cigarette.
Imagine une maison pleine de tableaux rares, de sculptures et d'antiquités de grande valeur. Et imagine que le propriétaire de cette maison apprenne qu'un cyclone monstrueux se dirige droit dessus. Un de ces 2 types d'hommes espère que tout ira pour le mieux. Le cyclone déviera de sa route, se dit-il.
Aucun cyclone de bon sens n'oserait détruire tous ces Rembrandts, mes 2 chevaux par dégâts, mes Grant Wood et mes Benton. En plus, Dieu ne le permettrait pas. Et au pire, ils sont assurés.
Voilà un type d'homme. L'autre est sûr que le cyclone va foncer en plein milieu de sa maison. Si la météo dit que le cyclone a changé de cap, ce type est sûr qu'il va changer à nouveau et revenir droit sur lui. Ce genre d'homme sait qu'on peut toujours avoir de l'espoir tant qu'on est préparé au pire.
J'ai allumé une cigarette. Dis-tu que tu étais préparé à ce qui t'est arrivé?
Oui, j'avais prévu le cyclone. Je savais qu'il était redoutable. Je n'avais pas beaucoup de temps, mais j'ai tout de même agi. J'avais un ami, à peu près la seule personne qui ne m'ait pas lâché, qui travaillait dans un cabinet d'investisseurs à Portland. Il est mort il y a environ 6 ans.
Désolé.
Ouais, il a jeté son mégot. Linda et moi avions près de 14 000 $. Pas un magot terrible, mais bon Dieu, nous étions jeunes. Nous avions toute notre vie devant nous.
Il a fait la grimace, puis s'est mis à rire.
Quand ça a commencé à chier, je me suis mis à déménager mes Rembrandts pour éviter le cyclone.
J'ai vendu mes actions en payant la taxe sur la plus-value comme un bon petit garçon.
Tout déclaré, sans rien magouiller.
Ils n'ont pas saisi tes biens?
J'étais accusé de meurtre, Red. Je n'étais pas mort. On ne peut pas saisir les biens d'un innocent.
Dieu merci.
Et il s'est passé du temps avant qu'ils aient le courage de m'accuser. Jim, mon ami, et moi avons eu de quoi nous retourner. J'ai bu un sacré bouillon, de tout vendre d'un coup. Mais à l'époque, j'avais d'autres ennuis et je me moquais d'être un peu écorché en bourse.
Ouais, m'étonne pas.
Mais quand je suis arrivé à Shawshank, tout était à l'abri.
C'est toujours à l'abri.
Au-delà de ces murs, Red, il y a un homme que personne n'a jamais vu en vrai. Il a une carte de sécurité sociale, un permis de conduire dans le Maine, un certificat de naissance. Il s'appelle Peter Stevens.
Un nom parfait.
Anonyme, hein?
Qui est-ce?
Je croyais comprendre,
mais je n'arrivais pas à y croire.
Moi ? Tu ne vas pas me dire que t'as pu te fabriquer une fausse identité pendant que les cognes te passaient à la casserole ? Ou que t'as fini le boulot pendant qu'on te jugeait pour...
Non, ce n'est pas ce que je vais te dire. Jim, mon ami, c'est lui qui a fait ça. Il s'y est mis quand mon appel a été rejeté, et il a eu l'essentiel en main au printemps 1950.
Ça devait être un ami vraiment intime.
Je ne savais pas jusqu'à quel point je croyais à tout ça.
Un peu, beaucoup, ou pas du tout. Mais il faisait beau, il y avait du soleil, et c'était une sacrée bonne histoire.
C'est 100% illégal de monter une fausse identité.
C'était un ami intime, a reconnu Andy. Nous avons fait la guerre ensemble. La France, l'Allemagne, l'occupation. Il était très proche. Il savait que c'était illégal. Mais il savait aussi que dans ce pays, c'est très facile et sans risque. Il a pris mon argent, tout impôt payé pour que le fisc ne s'y intéresse pas trop, et l'a investi au nom de Peter Stevens. En 1950 et 1951. Aujourd'hui, cela se monte à 370 000 dollars, plus les centimes. Je crois qu'il y a eu un drôle de bruit quand mon menton est tombé sur ma poitrine, parce qu'il a souri. Pense à tous les domaines où les gens auraient voulu investir depuis 1950 s'ils avaient su, et Peter Stevens l'a fait dans deux ou trois cas. Si je n'avais pas échoué ici, je serais probablement 7 ou 8 fois millionnaire aujourd'hui. J'aurais une Rolls et probablement un ulcère gros comme une radio. Ses mains se remirent à fouiller la terre et à trier des cailloux avec des gestes gracieux, ininterrompus. J'espérais que tout irait bien et j'étais prêt au pire. Rien d'autre. Un faux nom, c'était seulement pour mettre à l'abri mon petit capital, évacuer les tableaux de la trajectoire du cyclone. Mais je ne pensais pas que la tempête durerait aussi longtemps qu'elle l'a fait. Je n'ai rien dit pendant quelque temps. Je crois que j'essayais de me faire à l'idée que ce petit homme mince en uniforme de prisonnier avait plus d'argent que Norton, le directeur, n'en gagnerait au cours de sa misérable existence, même en rajoutant les pots de vin.